Je suis en ligne, chef-d'œuvre de reggae bien sûr, je suis en ligne avec Catherine.
Catherine, je suis là effectivement. Je vous remercie de me prendre. Et donc,
Ah, on a entendu un peu de reggae, mais c'est pas grave.
Ah oui. Donc, je venais à vous pour parler, comme je vous avais expliqué, de violences morales, dont on parle peut-être moins, mais qui sont tout autant destructrices, effectivement, que le reste.
Exact.
Et surtout, comme vous avez parlé des preuves qui rendent fort et qui nous font mûrir, c'est grâce à ça, à cette volonté de vouloir y arriver. Et ce que je voudrais passer comme message, c'est que ça nous fait rebondir, si vous voulez, pour avoir un espoir d'avoir une vie nouvelle. Voilà. Donc, je voulais expliquer un petit peu ce que j'ai vécu,
qui est
quand même très difficile.
Vous avez quel âge, Catherine?
Alors, écoutez, j'ai 71 ans, je suis assez dynamique.
Incroyable.
Mais 71 ans.
Je pensais que vous aviez 37 ans de voix, vraiment.
Ah, mais ça, c'est gentil, c'est gentil.
Non, mais vous avez... non, mais c'est incroyable. Se dit 71 ans, c'est pas très vieux aujourd'hui, il faut être honnête. Mais vraiment, vraiment, votre voix est indevinable. Enfin, votre âge est indevinable à travers la voix.
Merci.
Je vous en prie.
Vous voyez, ça veut dire qu'on m'a pas encore pris, mais ça a été très dur. Donc je vais résumer hein, quand même, parce que c'est très compliqué, très long. Quand il y a des violences morales, si vous voulez, les personnes sont tellement insidieuses, extérieures, c'est très difficile. Et ces gens-là nous des situations très complexes et compliquées où effectivement on est tellement perdu de choses qui nous arrivent, et je vais citer quelques-unes, que des gens de l'extérieur peuvent dire mais elle raconte n'importe quoi, c'est pas possible, la personne ne peut pas lui faire ça. Et c'est ce message-là que je voulais dire, parce que j'ai quand même fait un cheminement. J'arrive à des procédures, je suis passée par la police, des auditions, donc vous voyez, il m'est arrivé quand même beaucoup de choses. Et je voulais dire aux gens qu'il ne faut jamais baisser les bras, parce que je pense que quand on est dans un droit chemin, ce que je pense que j'étais, on arrive, comme je vous l'ai dit, à trouver des gens qui vont vous aider. Moi, j'ai eu des gens qui étaient dans des professions qui pouvaient m'aider. J'ai des gens qui m'ont cru. J'ai des portes ouvertes,
mais
des mains tendues.
J'entends bien tout ce que vous dites, ma chère Catherine, mais par contre, nous ne savons pas ce qui vous est arrivé.
Voilà. Donc, je sortais d'un divorce à la moitié de vie, on va dire, qui était un peu difficile, mais pas comme le deuxième que j'ai eu et dont je vais vous raconter. Et donc, j'ai fait la connaissance, si vous voulez, d'une personne. Alors, effectivement, quand vous sortez d'une épreuve, quelle qu'il soit, vous êtes en position de faiblesse. Moi, j'avais un enfant. Mon enfant, c'était... J'ai mis beaucoup de temps pour l'avoir, donc c'était quelque chose de très important pour moi.
Il avait quel âge à l'époque?
Alors, quand j'ai divorcé, j'avais 45 ans.
Non, mais l'enfant, il avait quel âge?
L'enfant avait 12 ans.
D'accord.
Voilà, donc c'était une période difficile, mais ça s'est toujours très bien passé avec moi, ça s'est très bien passé. Comme cette personne que j'ai connue est allée très vite, m'entourait, me faisait 1000 cadeaux, et moi j'avais passé des épreuves avant avec mon premier mari, difficile, parce qu'il était très longtemps au chômage. Donc on m'enveloppait de cadeaux, de vie que je n'avais pas connue. Donc si vous voulez, je suis tombée dans le panneau, effectivement. Moi j'étais la proie idéale. Et donc ce monsieur a voulu se marier, donc dès qu'il s'est marié, si vous voulez, les choses se sont resserrées au fur et à mesure. Donc, c'est toujours le même processus que tout le monde parle. Et hier, vous en avez très, très bien parlé. Donc, ces gens-là vous isolent de vos vrais amis. Ensuite, si vous voulez, vous avez encore un jour. Après, il y a eu des mots un peu blessants un autre jour. Ensuite, je me suis retrouvée dans des situations difficiles. J'avais une voisine qui faisait du bruit. Elle me tombait dessus, je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, ce monsieur avec qui je m'étais mariée, lui écrivait par derrière en signant pour moi. Donc effectivement, avec des mots violents qu'il avait vexés, donc les choses s'enclenchaient comme ça. Quand on partait en voyage, j'avais toujours des choses bizarres, il me manquait des affaires, il m'inventait des choses effroyables pour pas que, si vous voulez, je sois bien. Donc le mot heureux, le mot bien, c'était impossible. Et alors à la fin, si vous voulez, je vous résume, hein, parce que c'est très long. Et c'est la deuxième partie que j'aimerais parler, c'est la justice et comment on s'en sort. Et si vous voulez, à un moment, pendant un an, je vous l'avais dit aussi, si vous voulez, j'avais des biens qui étaient payés, donc je pense que cette personne les visait un petit peu. Et donc, pour me déstructurer, si vous voulez, pendant un an, ça a été très, très difficile. Et si vous voulez, il m'enlevait tout. Mais comment expliquer aux gens qu'on m'enlève mes lunettes, mes USB, que mon ordinateur, mes dossiers partent, mes ordinateurs ont des écrans noirs chaque 5 minutes. On peut dire, c'est elle qui est fatiguée, elle perd ses lunettes, etc. Mais en fait, je savais que c'était lui. Parce qu'à la fin, si vous voulez, je me suis dit que c'est trop. Et à la fin, si vous voulez, je ne savais même plus qui j'étais. Je ne savais plus quel jour on était. Je me dis, ça y est, tu as Alzheimer. Et donc, c'est cette torture. Parce que pour moi, je disais à mon avocat, mais ce monsieur me fait une torture morale. C'est un viol moral. Et c'est ça que je voudrais aussi dire, qu'il y a des gens... Si vous voulez, qu'ils ne sont pas touchés, moi, il ne m'a pas battu. Mais en fait, si vous voulez,
Si, il vous a battu à coups de mots. Il vous a roué de mots.
Alors, c'était horrible, parce que si vous voulez, vous ne savez plus, à la fin, je vous assure, je ne savais plus qui j'étais. Donc, j'étais allée voir un psy, parce qu'il m'a dit qu'il est folle, il faut que tu ailles voir un psy. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller voir un psy. Et ce psy, justement, quand elle m'a vue, elle a vu qui j'étais, et elle m'a dit, écoutez, on va lui demander de venir. Donc, il est venu, heureusement, et elle m'a dit, vous ne bougez pas, parce que moi, je suis un professionnel. Donc, je vais le provoquer, parce qu'il disait que j'avais la maladie de la persécution, que je perdais tout, enfin, je disais qu'il me volait tout, et que c'était faux, mais en fait, je savais que c'était vrai. Et donc, cette personne a réussi, vous voyez, à le déstabiliser. Et là, il m'a jeté un regard effroyable.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Je me permets de vous le demander. Pourquoi la psy a vu cet homme ?
Oui, elle a voulu nous confronter tous les deux.
D'accord.
Alors, nous a confrontés, si vous voulez. Et donc, elle a vu qu'effectivement, il était très, très pervers, finalement.
Elle a tout de suite vu sa perversion, tout de suite.
Enfin, voilà, tout de suite.
Elle a vu à qui elle avait affaire.
Voilà, exactement. Donc, chaque fois que j'allais la voir, ça me faisait du bien, effectivement, parce que méditer des mots-clés m'ont vraiment aidé, bien que c'était très, très dur. Et elle faisait que me dire « protégez-vous ». Mais quand un psy vous dit « protégez-vous », parce qu'il ne parle pas beaucoup, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais en fait, après, dans la deuxième partie, j'ai vu qu'il me déstructurait trop. Donc, je suis allée voir quand même des avocats, je suis allée voir des professionnels et qui m'ont dit, écoutez, il faut que vous parliez, sinon il va arriver à vous tuer finalement. Et je suis partie. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai protégé ma santé, certes. Mais d'un autre côté, si vous voulez, par vengeance, parce que ces gens-là ont une possession, moi j'étais sous une emprise. Si vous voulez, je ne réagissais pas. Je voyais qu'il y avait des choses...
Vous étiez dévitalisé.
Exactement. Si vous voulez, j'avais plus de réaction, alors que quand même, vous voyez à ma voix, j'ai quand même j'ai une personnalité.
Bah, je vois surtout que depuis que vous en parlez, votre voix a changé.
Ah bon ? Je suis plus, elle est plus forte, ça. Mais parfois, si vous voulez, le problème, c'est que quand on reparle de ces choses-là, moi, c'est un nœud, vous voyez, à la gorge. Parfois, vous n'arrivez plus à parler. Parce que ça me perturbe. Et on n'arrive pas, comme les femmes battues, si vous voulez, j'ai ma vie, maintenant je suis très bien, malgré le fait que j'ai des procédures et que je veux arriver jusqu'au bout, et c'est très difficile. Mais oui, j'ai la gorge qui se serre, parce que comme c'est les femmes battues, on ne peut pas oublier, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il nous arrive ça, parce que moi j'étais...
Je vous reprends tout de suite. Je suis contraint de lancer une publicité. Mais c'est aussi comme ça que ça nous permet de continuer à faire cette émission dans les meilleures conditions. Donc à tout de suite.
Sur Europe 1, vous aussi, venez vous confier à Yann Moix en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Je suis toujours en ligne avec Catherine qui nous parlait de violence morale, de violence verbale, de violence syntaxique, on pourrait dire, mais c'est quand même de l'ultra-violence que de vouloir dévitaliser une femme en lui reprochant finalement d'exister. Catherine, je vous redonne la parole.
Oui, c'est exactement ça. Si vous voulez, je pense que ce sont des gens qui ont un problème de fond, mais on a tous des problèmes de fond et je pense qu'on n'a pas le droit de faire passer aux autres nos propres problèmes. C'est à nous-mêmes de les résoudre. C'est ce que j'ai essayé de faire, effectivement, en me faisant aider de professionnels. Donc, j'ai vu ma faille. On en a tous une qui est toujours en enfance et qui est un peu tout ce que vos interlocuteurs rient. Et quand vous arrivez à savoir pourquoi est arrivé ça, pourquoi ces gens-là ont pris possession de vous et pourquoi ils veulent vous détruire, ben, ça veut dire que vous êtes tombé en bas, mais vous remontez. Et malgré tout ça, parce que je le savais, mais c'est très très dur quand même, si vous voulez, cette personne, donc elle m'a vu que je suis partie pour me protéger, on n'était pas encore divorcés, mais je suis allée dans le Midi me protéger dans une maison que maman m'avait donnée pour qui est une maison de famille. Donc, si vous voulez, cette personne m'a inondée. Enfin, il y a eu du harcèlement. Cette personne rentrait chez moi.
Vous sortiez de son emprise, voilà. De sa zone d'emprise.
Exactement.
Ce qui était insupportable.
Donc, ça, il ne le supportait pas. Donc, il rentrait chez moi, il me laissait 3 livres avec des titres bien spécifiques. Donc, moi,
j'ai pas entendu. C'était coupé un peu. Qu'est-ce qu'il faisait?
Quand il rentrait, il n'est pas rentré souvent, parce qu'après, j'ai changé les clés quand même. Mais quand il rentrait, pour me montrer qu'il était rentré, il me laissait des livres, un objet à un endroit. Oui,
comme un chat qui urine autour de sa zone pour délimiter un territoire.
Exactement, mais vous savez que la personne est rentrée. Et ça, c'est horrible, parce que vous avez toujours peur. Donc, j'ai changé les clés 3 fois, 10 fois.
C'est de la terreur, il essaye de semer la terreur.
Exactement. Et alors, ensuite, si vous voulez, je gagnais quand même mes procédures. Lui, quand même, avait, vous voyez, c'était une personne, en plus de ce qui a, comme je vous l'ai dit, qui a un statut qui est connu ou important, on va dire, dans son milieu propre. Donc, il se croit au-dessus des lois. Donc, moi, je gagnais. Et plus je gagnais, plus il se vengeait. Donc, à un moment, il s'est vengé dans une maison de mes parents. On a eu plus d'une dizaine ou quinzaine de vandalismes. Et la police me disait, mais non, ce sont des jeunes. Mais les jeunes, il n'y avait pas de tabac, il n'y avait pas de bière, il n'y avait rien. Donc, je sais que c'est lui. Mais le problème aussi de tout ça, c'est que, si vous voulez, il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut prendre les gens sur les lieux. C'est impossible. Donc, ce monsieur laissait des mises en scène, en fait, bizarres, religieuses. Enfin, il y avait toujours des choses complètement bizarres. Et je me suis dit, si tu en parles trop, comme il voulait me faire passer pour folle, on va croire que tu es folle. Donc, il faut aller à la police, expliquer les choses. Mais c'est très dur, parce que vous savez que vous êtes victime. Moi, je sais que c'est lui, mais je ne peux rien prouver. Donc, si vous voulez, dans mes plaintes, je ne peux pas mettre ça, parce que je n'ai pas assez de preuves. Mais ce monsieur... en payant quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, à laisser des affaires. Et quand vous avez un vandalisme, les personnes, soit elles volent, il n'y avait jamais de vol, et ne vont pas laisser des objets. Elles prennent, elles mettent tout par terre et elles s'en vont. Donc, il y avait des choses bizarres et incohérentes qui me faisaient dire que c'était lui, et ça, j'en suis convaincue. Et donc, à la fin, si vous voulez, quand vous avez la police qui vous écoute, mais après vous rabâchez toujours la même chose, mais la police, à la fin, elle vous écoute plus. Donc, à la fin, je n'y allais plus, parce que ça ne sert à rien.
Vous auriez dû le taper à ce qu'il a de plus narcissique, c'est-à-dire son boulot. Vous auriez dû aller faire un scandale sur son lieu de travail, hein, et vous parler à son patron, et essayer de lui nuire professionnellement.
Alors, il est à la retraite, malheureusement pour moi. Il est dans des associations connues et reconnues en France. Il a fait des choses effroyables en prenant des entêtes, justement, de ces choses si importantes, en changeant des textes. Donc, chaque fois, il fallait que je cherche les justificatifs.
Je le dis, c'est aux femmes qui sortent avec des pervers, parce que là, c'est un énorme pervers.
Mais vous avez raison.
Il faut essayer de... Je dis ça aux femmes qui sont en train de nous écouter et qui subissent les horreurs que vous êtes en train de tellement bien décrire, Catherine, mais tellement bien décrire, je dis à ces femmes, essayez de trouver le talon d'Achille du salopard qui vous fait souffrir. Et on connaît tous le talon d'Achille de la personne avec qui on est. Essayez de trouver le moyen par lequel vous pouvez dynamiter l'emprise qu'il a sur vous. Je vous laisse continuer, Catherine.
Oui, et c'est justement vrai, parce que ces gens-là qui sont très, très imbus de leur personne, ils sont toujours en train de vouloir...
Ils ont peur d'être démasqués en général, ils vivent dans la terreur d'être démasqués.
Exactement. Et moi, chance que j'ai eue, si vous voulez, je comprenais rien, j'avais comme un pulse qui était défait de ma vie. Et au fur et à mesure que je retrouvais des papiers ou que des gens me parlaient de lui et que j'ai fait des recoupages... J'ai compris que ce monsieur, si vous voulez, qui disait « moi j'ai tout réussi », en fait, son passé était qu'un délire de choses pas... Enfin, je vous l'avais dit, il a été
licencié.
Non, pas mythomane, parce qu'il a quand même eu un travail qui était important, mais si vous voulez, il a eu beaucoup de soucis. À chaque travail, il veut être le premier, donc il doit embêter les gens, et on le met dehors, et il recommence ailleurs, et de nouveau, il fait pression sur les gens. Vous voyez, je veux dire que partout où il passe, ce monsieur, il a eu des problèmes tout le temps, mais il arrive à rebondir. Je ne sais pas comment il fait, mais il arrive à rebondir. Alors, arrivera un jour, c'est vrai, parce que là, c'est vrai que j'ai contacté des gens avec qui il est en contact, qui me disent ce que vous me dites. Il me dit, écoutez, il faut l'arrêter maintenant. Il faut que les gens sachent qui il est. Donc, écrivez ce que vous avez vécu ou ce qui, avec des preuves, mais moi j'ai les preuves hein, quand même. Montrez aux gens qui prend des entêtes, qui fait des choses avec des organismes dont il n'a pas à faire pour se faire valoir. Et peut-être un jour, ben, ça l'arrêtera parce que ce sont des gens qui n'aiment pas être critiqués, en fait.
Ce sont des gens qui, surtout, vivent dans la terreur d'être démasqués. Ça, c'est démasqué, très important. Voilà. Non, mais ça, je le dis pour toutes les auditrices qui subissent ça. Quand le pervers est démasqué, il devient fou. C'est-à-dire qu'il est mort. C'est échec et mat. Et le seul endroit où il se montre aussi terrible qu'il est, il sait être, c'est dans l'univers intime, parce que là, il maîtrise le domaine, il maîtrise la zone, il est le chef absolu. Il règne sur sa micro-dictature. Mais en dehors, le pervers va tout faire pour montrer qu'il est parfaitement sain, normal et serein. Mais s'il est démasqué à l'extérieur, a priori, il prend un bon coup de plomb dans l'aile.
Oui, oui, c'est vrai. Et vous savez, mettons, bon, moi, j'ai divorcé, je suis avec des choses maintenant à des niveaux très hauts juridiques compte tenu de tout ce qu'il m'a fait. Mais hop, il change, vous voyez, il a dû prendre une autre proie, une autre personne,
évidemment.
Et il recommence avec une autre personne. Bon, j'essaye de faire passer des messages pour protéger cette personne, et j'espère qu'elle n'est plus avec lui. Mais la chose aussi qu'on est, que je voudrais faire passer comme message, c'est la justice. Je trouve qu'en justice, mettons ce monsieur, moi, dans mes procédures de justice, il ne fait que des faux. Donc moi, je justifie, je vais chercher. Bon, quand ça touche argent, ben, mettons, il prend des entêtes d'experts comptables, je ne sais pas comment il arrive à ça. Il refait la signature. Alors maintenant, j'ai un peu un troisième sens, donc j'arrive à voir. Et pour en arriver là, si vous voulez, c'est une telle... Vous voyez, vous disiez le petit caillou, il faut avancer, c'est un chemin périlleux, difficile. Ce sont des années. Moi, ça fait 8-9 ans que je suis harcelée par ce monsieur. Bon, j'espère arriver au bout.
Là.
Oui, oui, le harcèlement, il a arrêté complètement. Mais je suis dans les procédures.
Attendez, mais il continue quoi? Il a arrêté le harcèlement, c'est-à-dire qu'il continue quoi?
Alors maintenant, ben, pour se venger, parce que comme il perd chaque fois en justice, ou que j'ai donné deux documents faux qu'il dépose en justice, mais ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Moi, je trouve qu'on devrait faire comme au rugby, je ne fais que le dire, carton rouge, carton machin, monsieur, vous avez fait un faux, vous n'avez plus le droit de faire des procédures pendant 6 mois.
Mais
parce
c'est,
que nous,
de toute façon,
les victimes...
Mais attendez, c'est puni par la loi, hein, vous savez, d'utiliser
du surpay.
Ah non, mais usurper des adresses administratives, etc., c'est lourdement puni par la loi. Hein.
Oui, mais vous savez, hier, vous avez dit justement, moi je suis au pénal, j'ai une plainte au pénal, c'est 6 ans et c'est 10 000 euros. Un pénaliste,
oui.
C'est 10 000 euros.
C'est cher, c'est cher, c'est
voilà,
très juste.
C'est cher. Donc tout le monde ne peut pas faire ça, vous voyez. Donc, alors dans tout ce brouillard, dans ce tourbillon, il faut. La fois, on me dit, va à l'essentiel. Mais l'essentiel. Victime, c'est tout. Parce que moi, c'est mon honnêteté. Je veux dire, ce monsieur a écrit dans toute la France. Enfin, je travaillais dans une mairie, il a écrit des choses effroyables. Heureusement, le maire qui m'a protégée, en tout bien, tout bonheur. Vous voyez, qui me connaissait, parce que quand même, bon, je suis quand même respectée dans mon lieu de travail, du moins maintenant. Est connu et reconnu, mais là ils viennent faire, mettons, un livre, on va dire, calomnieux mais effroyable.
Pardon ?
Sur sa première vie.
Il écrit un livre.
Ah oui, il a écrit un livre, mais des choses,
mais il a publié.
Abominables. Alors, je pense que ce monsieur a dû faire un livre à 50 ou 100 exemplaires,
oui,
ou peut-être, et après il envoie à des gens que je connais.
Il est malade.
Ou des gens qui connaissent sa première épouse, et voilà, pour nous salir, pour voilà, nous déstabiliser. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ignobles dedans. Alors, il ne faut pas. Alors, après, moi, je réfléchis, je me dis, bon, est-ce que tu vas te déstabiliser pour ça, alors que la moitié des gens, moi, s'il me fait à Paris, j'y suis plus. Les gens me connaissent à la longue. Et le prennent pour ce qu'il est. Mais ça, parce que je suis, c'est ce que je dis, dans un milieu, si vous voulez, où je suis structurée, où je suis connue socialement, mais je plains, et c'est pour ça que je veux remuer la justice,
oui,
parce que les femmes qui sont sans aide, elles se trouvent complètement démunies, vous voyez, par cette terreur qu'ils font au début, elles sont isolées, moi, il m'a isolée de tous mes amis intimes pendant 10 ans.
Oui, c'est la
parce
grande
que
technique.
Chaque fois que les gens veulent...
On a Isabelle en ligne qui voudrait réagir à votre témoignage si fort. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir, Yann.
Je vous présente Catherine et je vous la passe.
Oui, bonjour oui. Catherine. Moi, j'ai vécu avec un pervers. Excusez-moi, je tremble parce que j'écoutais votre... Ça me remettait dans un schéma terrible.
Témoignage très, très fort. Je précise, hein, vraiment, je le souligne. Témoignage très, très fort de Catherine ce soir. Très,
oui.
très fort.
J'ai connu ça. Et moi, je pense que... m'a dit comme vous de partir. J'allais mettre fin à ma vie. Et j'ai pas compris quand on m'a dit ça, le psy. Et par contre, je suis partie. Mais voyez, je n'ai pas pu, moi, faire de démarches parce que je crois que ça m'aurait cassée. Je crois que c'est très, 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 très dur. Ce sont des gens qui ont une emprise terrible, qui vous cassent de votre famille, qui vous isolent, qui vous font des traitements. Moi, j'ai eu le qu'on appelle, alors je ne sais pas si les femmes ont connu ça, d'autres, l'épreuve du crayon. Un truc terrible.
C'est quoi ?
Et ça, je vais en parler parce que c'est vraiment odieux.
L'épreuve du crayon, expliquez-nous ce que c'est.
Alors moi, l'épreuve du crayon, mon compagnon, la première année, on était dans le sud, donc il me disait, bon, tu peux mettre ta poitrine, j'ai une enfance assez dure.
Ouais. J'ai un peu peur de l'épreuve du crayon, rien que l'intitulé déjà, ça ne me plaît pas du tout.
Donc la première année, je pouvais me mettre les sanites, parce que j'avais une belle poitrine, et puis la deuxième année, il me dit...
j'ai compris ce que c'est, Isabelle, c'est horrible.
En face de la salle de bain, il y avait une glace, il me dit, tu lèves les bras. Donc je lève les bras, il met le crayon, et le crayon ne tient pas, normal, puisque j'ai les bras en l'air. Et après, il me dit, tu mets tes bras, tu descends tes bras, et là, il lâche le crayon, et le crayon donc tient, c'est normal. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas, et il me dit, bah voilà, maintenant, tu as une poitrine, en gros, dégueulasse, et maintenant, tu ne montres plus tes seins. Et je vous assure que ça fait des dégâts. Et même si maintenant, les hommes que j'ai rencontrés après m'ont dit que j'ai une belle poitrine. Et bien moi, quand je me regarde dans la glace, c'est pas possible. Voilà.
Mais c'était simplement, il faut bien le savoir, hein, cette phrase était simple, n'avait rien à voir avec vos seins. Elle était simplement destinée à vous détruire, car les pervers ont un instinct inouï au laser pour savoir exactement comment détruire autrui. Et donc, il a peut-être vu que vous aviez des raisons d'être très fière de vos seins. Et il a
peut-être, je n'ai même pas pensé, voyez.
Non, mais vous,
même pas pensé à ça.
Sauf que lui, il avait peut-être pensé à ça alors que vous n'y aviez même pas pensé. Mmh. Et il sait peut-être qu'un moyen de vous atteindre, et c'est tellement facile à faire, c'était le physique, l'anatomie.
Ouais. Vous savez, j'étais anorexique. Donc, franchement, j'en ai bavé.
Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sortent avec des femmes uniquement pour leurs atours extérieurs, pour leur, pour leur poitrine, pour leurs fesses, pour leur visage. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes comme s'ils exhibaient des Ferrari ou des manteaux en vison aux soirées.
Ouais, d'accord, oui, d'accord. Mais ça me fait du bien, là, ce que vous avez dit, parce que je n'ai jamais pensé qu'en effet, que je pouvais avoir une belle poitrine et qu'en effet, il a pris le côté inverse.
Il a simplement dit cette phrase uniquement pour vous tuer. Prenez un exemple. Admettons que vous ayez des prétentions, je dis n'importe quoi, au chant par exemple. Admettons que sans vous poser vous-même la question, vous aimiez chanter depuis enfant. Il aurait dit, oh là là, écoute, tu peux arrêter de chanter parce que en fait, j'ai jamais osé te le dire, mais je crois que tu es la femme qui chante le moins bien de toutes celles que j'ai connues. C'est un enfer, il va pleuvoir, etc. Et vous auriez été démolie. En fait, il a compris que vous étiez sans doute assez, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être même à votre insu, coquette, apprêtée, enfin...
J'étais très, on me dit que je suis très féminine.
Voilà, et bien voilà, il a voulu vous tuer en tuant votre féminité. Si vous aviez été artiste, il aurait tué votre instinct artistique. Si vous aviez été chanteuse, il vous aurait tué par le biais de la voix. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait...
Oui, j'entends.
Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec votre anatomie, c'est juste pour vous tuer. C'est tout.
Ah ben, vous voyez, c'est bizarre, moi je suis suivie par un psy depuis très longtemps, hein, parce que ça a vraiment fait des dégâts, et je trouve que Catherine qui fait cette procédure, je ne sais pas où elle trouve la force.
Elle est très courageuse, Catherine, très courageuse.
Moi, vous savez, j'ai fui, Catherine. Je me suis mise dans l'alcool, j'ai fait des choses, mais vous ne pouvez pas, ma mère ne m'a pas reconnue. Je me scarifiais, je m'abîmais le visage. Il a fallu des années pour revenir
tout ça pour un pauvre type qui n'en valait pas la peine, c'est atroce.
Oui, voilà, c'est ça. Mais vous êtes sous l'emprise. Moi, je n'avais pas.
Je sais.
J'étais en dehors.
C'est ça le problème.
Et j'avais pas d'amis, me coupé de tout le monde. Et en plus, je travaillais avec lui. Je sais pas si vous imaginez.
C'est le pire cauchemar qu'on puisse imaginer.
Ça a été une horreur.
Quand c'est dans le milieu professionnel en plus, alors là, c'est.
Ah, 3 ans d'enfer.
Vous avez des enfants ? Vous avez des enfants ?
Non, j'ai failli, je voulais avoir des enfants avec lui. Quand je suis partie, j'ai dit ok, on travaille ensemble, je vais fonder un foyer. Il m'avait dit oui. Et après, je me suis aperçue qu'il était bizarroïde. Et puis, je me suis dit, oh là là, non, surtout pas d'enfant.
Vous avez quel âge, Isabelle ?
54 ans. D'accord. Je vous ai parlé hier avec le petit chat.
Ah, d'accord.
Oui, voilà, vous voyez, hein, oui, faut pas se fier. Hein.
Non, non.
Voilà, il faut pas se fier. On peut sourire, on peut être hyper... Mais il y a du vécu derrière. Voilà, c'est ça. Et Catherine, bah, vous êtes formidable, peut-être que vous y arrivez. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous y arriviez. Et puis peut-être qu'à travers vous, je me retrouverai aussi. Voilà,
en tout cas, voilà, c'est exactement le message que je voulais passer.
Hein. Voilà, parce que moi, je n'ai pas du tout la force. Hein.
Laissez parler Catherine, Isabelle, quelques secondes. Je crois que Catherine a quelque chose d'important à nous dire.
Oui, excusez-moi.
Je voudrais dire à toutes ces femmes qui ont des soucis ou des violences telles quelles, qu'il faut croire. Parce que moi, je me suis dit, si je baisse les bras, j'avais un fils, mon fils va s'écrouler. Donc, tout le monde va s'écrouler. Et ça me donne, enfin, ça m'a donné du courage. Mais le plus grand courage, si vous voulez, aussi, c'est de voir que les gens, à un moment, m'écoutaient, m'ont ouvert la porte, m'ont aidé. Et dès que vous avez une seule main tendue, il faut la prendre. Parce que d'une main, vous en aurez une autre. Et ensuite, oui. Bon, j'ai trouvé des gens très bien. J'ai écouté énormément la Libre Antenne. Et quand on écoute les uns et les autres, vous prenez la chose positive qui vous va à vous. Et de là, ça vous permet, si vous voulez, de rebondir. Mais ce que dit Yann, il a raison, on n'a pas le droit de se... Moi, je me suis dit, bon, maintenant j'ai 71 ans, mais je me suis dit, je passais une vie très difficile avec mon premier mari, au chômage, etc. Je croyais avoir une vie heureuse, je l'ai maintenant, cela dit, parce que, vous voyez, c'est ça aussi. Je me dis, j'ai passé une vie très difficile. Je me dis que les épreuves, il faut les prendre, les analyser, rebondir. Mais si vous arrivez à cheminer, vous mûrissez... Et quand vous arrivez à mûrir, vous trouvez votre vie. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Voilà, toujours.
Catherine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, il y a une différence entre, si je puis me permettre, c'est que vous aviez un fils. Et quand on a un enfant, je vous assure, on n'a pas grand-chose qui nous retient.
Il y a notre ami Maxime qui nous écoute et qui nous dit c'est un assassinat psychique.
Oui, en quelque sorte, oui.
Oui, parce qu'on vous... Écoutez, une fois, j'avais l'impression, ce qui est une impression qui a été très désagréable, j'avais une avocate qui avait voulu faire une médiation. Elle m'a dit, venez, on va essayer d'arranger tout ça. Donc, je suis allée, il est allé, etc. Écoutez, j'avais l'impression qu'on m'avait coupé, parce que, comme je disais à Yann, je ne savais plus qui j'étais. Je ne suis pas dans la bonne famille, j'ai dû être adoptée, c'est pas possible. Je savais même plus quel jour on était. Donc, on partait dans tous les sens, parce qu'il m'avait complètement, au bout d'un an, quand vous enlève tous les jours vos affaires, vos lunettes, vos USB, je pendais à chaque porte avec un fil rouge, un fil violet, enfin des choses, parce que je me dis, là, je le vois de loin, là, il ne va pas me l'enlever. Donc c'est horrible.
Je voudrais dire aussi, aux femmes qui nous écoutent et qui se sentent concernées que, en fait, on le sait quand on vit avec un pervers. On n'ose peut-être pas se l'avouer. On est peut-être dans le déni, mais on a tous un instinct. Et je pense que les femmes qui vivent ce que vous décrivez, mais qui ne le vivent pas complètement encore, qui sont au début de ce processus, le savent déjà. Donc, si elles nous écoutent ce soir et qu'elles reconnaissent des signes, une alerte qui est très simple, par exemple, c'est quand tout va bien au début, puis que ça se délite petit à petit, progressivement, qu'on sent un début d'emprise, que ces femmes sachent qu'en fait, sans qu'elles osent se l'avouer elles-mêmes, elles sont en fait déjà au courant.
Et les incohérences...
Vous en prie, Isabelle.
Allez-y, Isabelle. Je pense à une chose, parce que moi, ce que j'ai vu, enfin, c'est ma petite histoire, hein, c'est vraiment à ma petite mini-échelle. Mais j'étais très abîmée, enfant, tabassée et tout, enfin, des trucs de dingue. Bon, et je crois que quand j'ai connu cet homme-là, j'avais 27 ans, et il y a une chose que je me suis aperçue, et c'est pour ça que Diane, vous avez raison. Quand je l'ai rencontré, il n'aimait pas la nature, il n'aimait pas les chevaux. Et moi, j'aimais les chevaux, et je me suis dit, oh là là, ça ne va pas le faire. Puis je suis partie parce que, en fin de compte, je quittais ma région, je quittais mon passé, voilà, mon enfance, tout ce qui était mal. Et je me suis dit, bon, tu vas recommencer une nouvelle vie. Voilà, là, ça a été le gros leurre. Hein. Là, je me suis vraiment leurrée. Et donc, je crois que cette personne l'a vu a senti ma fragilité
bien
et
sûr.
A senti que j'avais besoin de
d'être. Il renifle, ouais. C'est comme des cochons truffiers. Oui. Il renifle les névroses, les accidents d'enfance,
exactement.
Les psychoses,
exactement.
Les faiblesses, les failles, les cicatrices.
Oui,
c'est des cochons truffiers.
Voilà. Et, et donc, je suis allée carrément dedans, quoi. Voilà. Mais on n'a pas le discernement à l'époque, hein. On est tellement... on dit, waouh, ouais, super, on a accepté, on est aimé. Oh, c'est bien, c'est bien. Puis après, waouh, après le coup près, il tombe, c'est l'enfer.
Le problème, ce sont des gens, si vous voulez, qui sont gentils un jour, puis un problème un autre jour. Ils laissent passer du temps, gentils, et puis après, problème.
Et puis, alors, et puis les gens, extérieurs, les
laissez un peu parler, laissez un petit peu parler, Catherine, je vous reprends tout de suite.
Non,
non, je vous en prie, je vous en prie.
Oui, oui, je voulais dire par là que le difficile que c'est, évidemment qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas, mais quand on est, moi j'étais dans une famille aimante et peut-être protectrice, voyez, mais, donc moi, pour moi les gens sont gentils, quelqu'un qui veut se marier avec moi, il ne peut être que gentil, j'avais un enfant, il ne pouvait que l'envelopper et c'était, il était gentil au début, mais après, comme vous dites, après le mariage, c'est la vis qui commence à se fermer et là on sent qu'il y a des choses bizarres, mais dès que c'est bizarre,
les pervers haïssent les gentils.
Ah, oui, tout à fait. Et ils les cherchent. Et ils les cherchent. Et je pense qu'effectivement, ce sont des gens qui ont besoin de gens, évidemment, de sensibilité, de gens qui ont beaucoup d'empathie. Moi, oui, je suis dans le partage, dans l'empathie. Donc, ce sont des choses qu'eux n'ont pas et qui veulent vous prendre. Donc, c'est ce que je disais, quand vous êtes en réunion comme ça avec des gens qui veulent vous aider, des professionnels, vous avez l'impression qu'il y a, que vous vous videz, que vous avez votre corps qui se coupe en deux. Vous avez tout qui va partir parce qu'il vous vide de tout vous. Et vous êtes, à la fin, vous n'avez plus de personnalité, vous êtes terrorisé. Moi, je me souviens qu'à la fin, juste avant mon divorce, ou avant que je refasse plutôt ma vie, avec une personne qui est bienveillante et qui m'entoure et qui m'aide, et qui m'a énormément aidée, si vous voulez, je n'osais plus sortir de moi, alors qu'avant, je partais à Paris, et une fois, je suis dans le midi, quand je suis arrivée toute seule à reprendre ma voiture, à arriver à Paris, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'ai eu, parce que je suis là. Ça y est, tu es de nouveau toi et tu vas y arriver. Et moi, je m'en fais un défi. Et je m'en fais un défi, pas pour moi, je m'en fais un défi pour vous toutes. Parce que je me dis que si moi, j'y arrive, d'autres prendront cette énergie en train de dire, bon, ben, cette personne, elle a parlé. Donc, elle y est arrivée. Et ben moi, je dois y arriver ou je peux y arriver. Et je pense qu'il faut y arriver. La seule chose que je voudrais pour dire, passer un message fort, c'est que ces gens, justement, biaisent la justice dans tous les sens et qu'ils ne sont pas pénalisés à leur juste valeur. Parce que moi, vous voyez, là, je pars en procédure, là, enfin, bientôt. De nouveau, encore une autre, parce qu'il y en a tellement, que je me dis, j'ai tellement tout donné, tellement tout justifié avec toute mon honnêteté, et puis vous voyez que cette personne, ben, elle rebondit, elle fait perdre du temps, beaucoup d'argent, et moi j'ai pas des...
Oui, mais je vais vous dire une chose, j'entends tout ça, mais moi je vais dire une chose qui va vous rassurer.
Oui.
Ces personnes dont on parle, sachez une chose, toutes, c'est qu'ils sont venus sur Terre pour rien, d'accord ? Ils ont,
oui,
vous ont fait
vrai.
Souffrir, d'accord, c'était horrible, mais vous en êtes sorti. Et ces personnes sont nées pour rien. C'est-à-dire que leur vie est partie en fumée. Ils n'ont profité d'aucun aspect essentiel de l'existence humaine. Ils ont raté la vocation de vivre. Ils se sont arrachés à l'essence de l'existence. Ils se sont soustraits à la seule chose qui vaille sur Terre, c'est-à-dire... l'amour et la vérité. Et ce sont des existences pour rien. Ce sont des fumiers d'existence, vous comprenez ? Donc en fait, la punition pour eux, c'est simplement d'avoir été, d'être encore et de continuer à être. Ils ne sont rien et sont venus faire un tour pour moins qu'un galet, pour moins qu'un tuyau d'arrosage, pour moins qu'un gobelet en plastique. C'est-à-dire que l'existence d'un gobelet en plastique est plus intéressante que l'existence des pervers. Je préfère écrire une biographie de 1000 pages d'un escargot ou d'une limace que des types dont vous parlez. Donc, ils sont venus sur Terre pour rien. Donc,
mais combien de mal ils ont fait ?
Oui, bien sûr, mais finalement...
Parce que ces gens-là détruisent tout le monde au fur et à mesure.
Mais ils se font du mal parce qu'ils ils se font du mal pour une raison très claire. C'est qu'ils sont morts à l'intérieur.
Oui,
ils sont
vrai,
morts. Ce sont des zombies. Ce sont des gens qui ont l'apparence du vivant, mais qui, à l'intérieur, sont morts. Est-ce qu'ils veulent répandre partout ? C'est rien d'autre que la mort, en dévitalisant les gens, comme les vampires qui croquent les gens à la nuque et qui sucent le sang. Donc en fait, ils ne peuvent vivre que par le sang des autres, en dévitalisant autrui, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, la vie. Pour être heureux, il faut être heureux. Être heureux, ça ne signifie pas que l'autre doit être malheureux. On est heureux Exactement. Que si on renverse... La seule définition acceptable du bonheur, finalement, c'est de savoir que personne Partage. N'est malheureux sur la Terre à cause de soi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
Oui. Et puis, je pense que la vie doit apporter quelque chose. On doit laisser quelque chose de positif dans notre vie. Et ces gens-là ne laissent rien de positif. Vous voyez ?
Merci à toutes les deux, vraiment.
Merci à vous.
Je vous embrasse très fort et à très vite. Bravo pour votre courage. Bravo.
Ben, il faut dans la vie, il faut avoir du courage.
Merci Catherine, merci Isabelle. Bonne nuit à vous.